Pendant les 5 années qui suivirent la trêve sur l'Angleterre et jusqu'à la victoire complète sur les princes, le roi se déplaça beaucoup. Les réunions du conseil se tenaient souvent dans des villes éloignées sur lesquelles il venait affirmer son autorité. Je m'efforçais de combiner mes propres déplacements pour le compte de l'argenterie avec ses rendez-vous autour du roi, mais j'y parvenais rarement et je le rencontrais donc assez peu. Une fois cependant, il exprima le désir que je l'accompagne. Il devait se rendre en Languedoc et savait que j'avais là-bas des affaires. Nous partîmes de Blois. Ce n'était pas une campagne militaire, puisque ces provinces du Sud lui avaient toujours été fidèles. Le roi était pressé de rentrer et voulait aller vite. Il avait commandé pour ce voyage une escorte légère, tout juste suffisante à nous garder des troupes d'écorcheurs que nous aurions pu croiser. En somme, j'étais pratiquement seul avec le roi. Nous passâmes ces 2 semaines ensemble, dans une proximité que je ne retrouvais jamais plus avec lui. J'oubliais parfois qui il était quand nous riions aux histoires qu'il racontait, quand nous lancions nos chevaux au galop dans les landes, quand nous nous enroulions dans des couvertures de peau le soir autour du feu de camp. L'été venait, les nuits étaient chaudes, semées de comètes, nous nous lavions dans des ruisseaux à peine froids. Comme j'étais seul admis dans sa compagnie pendant ses toilettes, j'eus le privilège d'apercevoir son corps, déformé par les privations d'enfance, sa peau bleue sans chaleur, son dos voûté. Je savais que la révélation de ses misères, qui semblait ne pas l'incommoder, était une grave transgression qu'il me reprocherait un jour. En échange, je livrais à ses regards le secret de mon torse enfoncé, mais je sentais bien que cette menue monnaie ne rachetait pas mon crime. Plus j'apprenais à le connaître, plus je mesurais à quel point il était dangereux, blessé, jaloux, méchant, ne laissant à personne le loisir de lui échapper. Je savais déjà tout cela, et j'en pressentais les effets, mais j'étais incapable de m'en protéger. Il est une chose que je découvris pendant ce voyage, c'est la capacité qu'avait Charles d'écouter. Ses idées ne naissaient pas seulement de réflexion personnelle ou d'intuition, elles procédaient du lent décryptage d'innombrables paroles entendues. Quand un sujet l'intéressait, il prenait les rênes de la conversation, posait des questions, guidait votre témoignage. Cette maïeutique opérait ses effets sur moi, et je me surprenais, en lui parlant, à découvrir en moi-même les idées nouvelles qu'il avait su me faire formuler et peut-être même concevoir. Ainsi nous eûmes un soir une longue conversation sur la Méditerranée, qui nous tint presque jusqu'à l'aube. C'était, je m'en souviens parfaitement, dans un bourg des Cévennes. Nous avions fait halte dans une maison forte à mi-pente. D'une terrasse qu'avait aménagée le propriétaire, on voyait la plaine du Rhône, et dans une brume, au loin, se devinaient les premiers contreforts des Alpes. Le lieu était idéal pour tracer de grandes perspectives. Charles, que le vin sucré avait relâché, était bien calé dans un fauteuil en osier. J'étais assis à la table de pierre sur laquelle nous avions dîné. J'avais repoussé les assiettes et les verres et je me tenais penché en avant, les coudes posés sur la table. Quand la pénombre envahit le coteau, le roi refusa qu'on allume des bougies et nous continuâmes à discuter dans une obscurité quasi totale. Il regardait les milliards d'étoiles que la nuit profonde et sans lune faisait ressortir. Il n'y avait plus ni souverain, ni serviteur. Seulement le vaisseau du rêve à bord duquel nous avions tous les deux embarqué et que poussait un grand vent d'espoir, comme en fait monter le corps quand il est reposé et repu. C'est lui qui m'avait demandé de l'entretenir de la Méditerranée. Je commençais par lui décrire le rivage de Paris-ci et lui rappelais d'abord qu'il était l'un des 4 maîtres qui se partageaient cette côte. 4 ? Et qui sont les autres ? Je lui jetai, sans cesser de sourire, un regard soupçonneux. Avec lui, il était toujours difficile de savoir si ces questions recelaient des pièges. Que savait-il au juste de la Méditerranée ? Il me semblait impossible qu'il n'eût pas quelques notions sur la situation. En même temps, il avait porté si exclusivement son attention sur la guerre avec les Anglais, il avait tant de soucis avec la Bourgogne, les Flandres et bien d'autres provinces du Nord, qu'il avait peut-être en effet de graves lacunes en ce qui concernait les affaires méridionales. Supposez, commençai-je prudemment, que nous poursuivions notre chemin vers la mer dans cette direction. Je pointais du doigt le sud, vers lequel s'ouvrait la vallée. La nuit n'était pas encore venue. Le roi tenait les yeux écarquillés comme pour dissiper la brume mauve dans laquelle s'abîmait le fleuve. Arrivé à la côte, imaginez qu'à votre droite vous entrez chez le catalan, que vous n'aimez guère, Alphonse, roi d'Aragon et de Sicile. Il dispose d'une flotte de commerce, mais aussi de corsaires qui attaquent et pillent ce qu'ils rencontrent. « Du vin !» commanda Charles. Il buvait peu et par petites gorgées, mais j'avais déjà observé que la tension nerveuse augmentait sinon son plaisir, du moins son désir d'avoir recours à la boisson. Et à gauche? À gauche, d'abord, vous trouverez le port de Marseille, qui est au duc d'Anjou, comme toute la Provence. René! En effet, le roi René. Charles haussa les épaules et siffla. Le roi René! N'oubliez pas qu'il est mon vassal. En tout cas, sur ces mers, il se conduit plutôt comme un concurrent. Il peut bien vous rendre son hommage féodal, il continue de rivaliser avec vous sans merci dans le domaine commercial. Je ne suis pas obligé de me laisser faire, certes. Je savais que cette idée lui plaisait. Charles n'était pas un féodal, il haïssait cet ordre qui faisait de lui le premier des princes, mais lui refusait les moyens de devenir un roi. Son alliance avec les bourgeois de mon espèce, son envie de briser les grands barons, son intention de disposer d'un instrument financier, d'un négoce puissant, d'une armée bien à lui, c'était tout cela que j'admirais en lui. Et le quatrième? Après la Provence, plus loin sur cette côte, c'est Gênes. Gênes, répéta-t-il pensivement. Est-ce une ville libre? Je n'ai jamais rien compris à l'Italie. Réflexion typique d'un roi de France. Le duc de Bourgogne n'aurait pas parlé ainsi. Parmi les héritiers de Charlemagne, celui qui régnait à Dijon regardait depuis toujours vers le sud et connaissait les affaires de la péninsule italienne. Le roi de France, lui, fixait les yeux sur l'Angleterre. Mais la question de Charles montrait que les choses allaient peut-être changer. S'il parvenait à se délivrer définitivement de la menace anglaise, le roi de France pourrait enfin tourner le regard vers l'Italie. Je le désirais passionnément. J'ai toujours pensé que la France pouvait jouer un grand rôle dans cette région. Tout à l'idée de faire du royaume le nouveau centre du monde, je ne pouvais concevoir ce centre sans Rome. Or, l'Italie divisée était ouverte à notre conquête. Le prince catalan, beaucoup moins puissant que Charles VII, n'avait-il pas conquis la Sicile et le royaume de Naples? Je me gardais d'expliquer tout cela trop nettement, de crainte que le roi ne prenne peur. Je me contentais d'un premier pas dans cette direction. Gênes a toujours eu besoin d'un protecteur. Certains dans cette ville seraient heureux que ce soit vous, sire. À la manière dont le roi, strictement immobile, cligna des paupières, je compris qu'il avait parfaitement saisi l'intention et la portée de ma remarque. Comme à son habitude, il dissimula son intérêt, mais j'étais bien certain qu'il y reviendrait. « Et plus loin que Gênes, qu'y a-t-il ? » ?»« Rien qui compte sur la mer. Florence n'a pas de flotte et le pape, à Rome, ne regarde pas vers son port. Le seul rival de Gênes est situé de l'autre côté de la péninsule, sur l'Adriatique. C'est Venise. » Le roi me posa encore bien des questions de détail sur les quatre flottes qui se partageaient les côtes de Barcelone jusqu'à Gênes. Il m'interrogea longuement sur les ports du Languedoc. Je lui parlai de Montpellier et de son chenal, à mon avis sans avenir, jusqu'à Lattes. Il était curieux d'entendre la glorieuse histoire d'Aigues Mortes, mais il changea de sujet quand je décrivis l'ensablement du port, comme si cette évocation de l'œuvre des siècles et peut-être la mémoire de Saint-Louis le plongeait dans la mélancolie. Ce n'était pas la première fois que je sentais en lui cette peur viscérale du temps. Lui, qui supportait les privations, les échecs, les trahisons, cédait à une peur panique devant la perspective de la mort. Avec le recul, j'y vois une certaine cohérence. Sa force était d'attendre et de placer son espoir dans les changements que porterait l'avenir. À partir du moment où il prenait conscience de sa finitude, le temps n'était plus de son côté. Privé de cet allié, il devenait vulnérable. et ce qu'il acceptait comme provisoire lui devenait insupportable dès lors qu'il n'aurait plus le temps de s'en délivrer. La nuit était déjà bien noire quand il mit la conversation sur l'Orient. La servante qui avait apporté du vin n'était pas repartie. Je la distinguais mal dans la pénombre, mais il me semblait qu'elle se tenait debout à côté du roi et que tout en parlant, il lui caressait la jambe. « En Orient, dis-je, ils sont quatre aussi, tous ennemis deux à deux. Expliquez-vous. C'est simple. La plupart des gens vous diront qu'en Terre Sainte, la chrétienté affronte les mahométans. C'est le sens que l'on donne en général aux croisades. Vous n'êtes pas de cet avis ? Si, bien sûr. Mais à parler ainsi, on néglige une autre rivalité qui n'est pas moins violente. Laquelle ? Celle qui oppose deux groupes au sein de chaque camp. Les mahométans sont divisés ? Profondément. Le sultan d'Égypte, qui règne jusqu'à Damas et en Palestine, n'a pas de pires ennemis que les Turcs installés en Asie mineure. Est-ce à dire que nous pourrions utiliser l'un contre les autres ? C'est sans conteste. Les marchands qui viennent d'Europe reçoivent un bon accueil au Caire. Ne dit-on pas que les chrétiens qui demeurent encore en Terre Sainte subissent toutes sortes de vexations ? Les Arabes s'en méfient, c'est certain. Mais il faut dire, sans les excuser, que les partisans de la croisade n'ont pas renoncé, à commencer par votre cousin Bourgogne. Et ils continuent de se tromper d'ennemis. Ils trouvent les Turcs sympathiques et en veulent aux Arabes d'occuper Jérusalem. Pourtant, ce sont les Turcs qui empêchent les pèlerins de se rendre en Palestine. Et ce sont eux qui pénètrent en Europe et progressent dans les Balkans. Et les royaumes chrétiens sont-ils divisés aussi ? Bien sûr. Tous ceux qui vous parleront de la chrétienté et de son combat contre les disciples de Mahomet pensent à Byzance, aux abords de laquelle campent les armées turques. Est-ce faux ? Non pas. Mais cette propagande arrange au premier chef le Basileus, qui aime se présenter comme le dernier rempart contre l'islam. La réalité est qu'il passe au moins autant de temps à se battre contre d'autres chrétiens. Et qui ose ainsi l'attaquer ? Nos amis latins, Gênes, Venise. Et si les Catalans ne s'y mettent pas, c'est qu'ils se réservent pour des coups de main opérés par leurs vaisseaux corsaires. La lune n'avait toujours pas paru. Mais nos yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je distinguais la servante qui était debout derrière le roi. Il avait guidé ses mains et elle lui massait les épaules. Plusieurs de ses maîtresses m'avaient confié qu'il avait grand besoin de telles manipulations. Elle seule semblait à même de le délivrer de l'effroyable tension qui le tordait en tous sens. Je compris que, loin de le distraire de mes propos, les gestes de la servante lui permettaient de déposer le fardeau de ses douleurs et le laisser libre de m'écouter avec la plus extrême attention. « Si Constantinople est menacée sur terre par les Turcs, poursuivis-je, elle subit de constants revers dans les îles du fait des Latins. » Le roi me demanda de nombreux détails sur les rivalités commerciales et territoriales entre Constantinople et les villes italiennes. Ces questions étaient si précises et à certains moments si anecdotiques que j'eus de nouveau le sentiment qu'il se livrait à un jeu. Mon assurance sur ce sujet constituait un défi pour lui, et il cherchait sans doute à me mettre en difficulté. Il y parvint, et à plusieurs reprises, je dus avouer que j'ignorais les réponses. Il eut alors un petit rire de satisfaction. Après un de ses échecs, il se leva, remercia la servante en lui caressant la joue, et partit se coucher. Durant les deux semaines de notre voyage, il continua de m'interroger. À Montpellier, il demanda à voir une galère et monta même à bord pour en inspecter le chargement. La ville lui réserva un accueil de souverain, mais il fit écourter les cérémonies, augmentant du même coup le temps dont il disposait pour voir les installations de commerce, s'entretenir avec des patrons de navires, des marchands et jusqu'aux rameurs des galères qu'il interrogea sur leur travail. C'était encore à l'époque des gens libres, même s'ils n'appartenaient pas, on s'en doute, à la meilleure espèce. Il s'engageait souvent pour fuir une peine de prison, voire pire, dont la justice leur faisait grâce, pourvu qu'ils se tiennent pendant quelques traversées à leur banc et à leur rame. Je rentrai de ce voyage avec le sentiment de m'être rapproché du roi. Mais par un effet de sa personnalité, plus la distance diminuait avec lui, plus l'incompréhension augmentait. Aux yeux de tous, j'étais à l'évidence entré dans le cercle envié des familiers. J'avais plutôt, moi, la certitude d'avoir pénétré dans une région dangereuse, comme un homme qui, pour percer un secret, s'enfonce si profondément dans un souterrain que toute retraite lui est désormais coupée, et qu'il est à la merci de dangers d'autant plus redoutables qu'ils sont imprévisibles et inconnus. Je n'avais pas non plus l'impression que notre proximité l'avait fait mieux entendre mes opinions. Surtout ce qui concernait en particulier la situation en Méditerranée et en Orient, je parvins à la conclusion que le roi s'était amusé à me faire parler. Il avait poussé ses questions jusqu'à mettre à nu mon ignorance, mais ensuite n'en avait plus reparlé.